Direct en jeu, la radio insolite à la mairie du 2e arrondissement à Lyon, avec une expo photo avec Gilles Boudinet. Alors, ce qui est très original, c'est que Gilles, vous le connaissez, puisqu'on a eu l'occasion de faire des émissions sur la philosophie. Et là, eh ben, c'est la partie photographe qu'il met en avant sur cette expo. Gilles, qu'est-ce qui t'a pris ? T'as changé d'envie ?
Ah non, pour moi, la photographie et la philosophie, c'est très proche, parce que la photographie, c'est une façon de découper, de ressentir et de penser le monde, et la philosophie aussi. Alors peut-être de façon plus approfondie, puisque je travaille sur la philosophie, mais également sur la philosophie de l'éducation artistique, l'une de mes grandes préoccupations, c'est quand même le rapport qu'ont les jeunes générations à l'image. On peut se rappeler avant, par exemple, un auteur comme Dubourgel nous disait il y a 30 ans, l'éducation ne facilite pas en France l'accès à l'imaginaire créateur parce que les images sont très rares et réservées aux enfants les plus sages. Or, force est de constater aujourd'hui que l'imaginaire créateur, avec l'esprit critique, la capacité de création, la capacité de réflexion, ne sont pas davantage facilités alors que les jeunes générations sont aujourd'hui totalement saturées, envahies d'images. Alors la question, c'est y aurait-il des images qui favorisent un recul critique, une pensée, et d'autres images qui, au contraire, nous saturent totalement. C'est le cas, bien sûr, des grands médias, de la pub, etc. Mais d'autres images qui nous saturent totalement et qui, finalement, nous empêchent de penser, et voire même nous aliènent à un produit de consommation, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quand même une interrogation un petit peu philosophique. En quoi l'image peut-elle émanciper celui qui la regarde ?
Alors, ce qui est original sur cette expo, c'est que, je sais pas si je dois dire 37 ou 38. 38. Non, 37. Toi, tu dis 38. Moi, je dis 37 plus 1. Alors, pourquoi 37 plus 1 ?
Ah, c'est bien vu. L'expo a commencé, le fait déclencheur, ça a été la redécouverte par hasard de vieux matériel, d'objectifs photographiques de l'époque argentique, qui était donc une époque aussi d'objectifs photographiques des années, les plus anciens, c'est les années 1930, et ça va jusqu'aux années à peu près 70-80. Mais ce sont souvent des objectifs qui étaient faits pour une époque où le matériel était calibré pour la photographie en noir et blanc. Et cette photographie en noir et blanc, avec ses objectifs très particuliers, donnait un rendu spécifique, une autre façon de voir le monde. Et c'est précisément ça que j'ai appelé une poétique de l'image et qui permet un petit peu de voir les choses comme la façon dont l'image se forme autrement qu'aujourd'hui. Et donc j'ai voulu avoir pour projet un projet en noir et blanc. À ceci se rajoute un autre élément très subjectif, bien évidemment, mais je suis subjugué par la lumière lyonnaise. Et la lumière lyonnaise, elle est toujours inclinée, elle est toujours en biais, elle favorise complètement les jeux d'ombre et de forme. Et le noir et blanc sied particulièrement à cette rencontre de la lumière, des ombres et formes. Voilà, mais après avoir fait 37 photos en noir et blanc, j'étais absolument épuisé, donc j'ai voulu désobéir et j'ai terminé avec une photo couleur.
Ah, ce qui est original en plus, c'est... Alors, est-ce qu'on peut juste redéfinir l'argentique pour que... Je ne sais pas si tout le monde sait.
Oui, c'est la première photographie, celle qui était faite. En fait, le nom vient du fait que les pellicules étaient couvertes de sel d'argent dès l'époque de Niépce, je crois, puisque l'argent s'obscurcit très facilement à la lumière. Donc ce que l'on appelle argentique, par extension, c'est la photographie avec le développement, la pellicule et le développement de la pellicule et puis le tirage. Voilà, l'époque où il fallait aller chez le photographe ou le faire soi-même dans son laboratoire ou dans sa salle de bain transformée. Et le contraire, c'est le numérique, donc où là, il n'y a plus besoin de développement.
Alors, ce qui est original, c'est que les photons ont une taille qui sort un peu de l'ordinaire. parce qu'une photo traditionnelle, elle fait 10 par 15 ou elle est en format quart de vitre. Là, elles ont, c'est très mathématique tout ça.
Oui, mais c'est vrai que tu as raison, parce que c'est le support est toujours très très important. Mais c'est pareil pour toute œuvre photographique, mais aussi pour toute peinture. Alors moi, il y a deux écoles. Certains pensent que, au contraire, il faut aller plutôt sur des grandes tailles, que c'est mieux dans une exposition. D'autres photographes préconisent plutôt des petits formats, ce qui oblige le public à se pencher pour presque rentrer dans la photo et la méditer. Alors moi, j'ai pris le parti de formats qui sont, selon les photos, ou carrés ou rectangulaires, c'est 30-20-30 ou 30-30, qui sont des formats quand même assez grands, parce qu'aussi ça me permettait de savourer, c'est vraiment ça, la texture donnée par ces vieilles optiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle le piqué, le grain, le velouté, tout ça finalement c'est une affaire de cuisine. Et quand les plats sont plus grands, on peut mieux y savourer les composantes végétales qui s'y trouvent.
Nous, dans le domaine de la musique, on a un retour aux 45 tours, aux 33 tours, aux disques vinyles. J'ai l'impression qu'au niveau de la photo, ce n'est plus uniquement d'appuyer sur un bouton pour avoir une photo, je peux le faire avec mon téléphone. Il y a tout un travail de fond en amont quand on utilise une pellicule argentique ou un appareil un peu spécial.
Oui, tu as tout à fait raison, et moi je partage vraiment le parallèle que tu fais avec aussi ce qu'on appelait avant le son analogique. Et tous les amateurs, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les amateurs de musique aiment bien aussi retrouver le son d'avant, le disque qui gratte, et surtout cette amplitude, cette coloration que l'on a dans l'analogique, où il n'y a pas une bande passante très compressée et tout ça, au contraire, on prend le temps de respirer, on va du plus grave, le plus profond, jusqu'à l'aigu, le plus cristallin, dans un spectre très large. Alors ça, c'est pour le son. Tu as absolument raison, il en va de même pour la photo. On trouve précisément avec le matériel, l'ancien matériel, peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne peuvent pas nécessairement être capturées par le matériel digital, parce que ce sont des spectres qui sont assez grands. Et notamment en noir et blanc, le noir et blanc se prête bien à cela, des spectres de gris, des dégradés de noir, des contrastes de blanc, de noir avec des dégradés de gris. Qui me semble échapper à ce que peut rendre aujourd'hui une photographie de type numérique.
Je n'ai jamais été éduqué avec l'éducation de mon œil. Est-ce que je suis capable de différencier toutes ces choses-là ?
Oui, c'est le but de l'exposition. Et puis si on n'y arrive pas, mais c'est pareil en musique.
Oui,
tout à fait la même chose. Mais je crois que faut-il comment peut-on discerner toutes ces différences comme ça entre l'analogique, le numérique d'un côté, entre les anciennes technologies et puis celles contemporaines. De toute façon, je pense que les techniques, on va dire numériques, qui sont très bien, elles sont ni plus mauvaises, ni meilleures que les techniques analogiques, elles sont simplement différentes. Alors, peut-on percevoir cette différence ? Je ne peux pas t'y répondre. Il y a certainement... je pourrais juste y répondre en disant que peut-être qu'on ne l'aperçoit pas spontanément, surtout dans notre monde qui nous envahit complètement d'images, de sons aussi. Mm-hmm. Mais à une époque où précisément on va instaurer des tableaux numériques trucs géants, même pour les petits bouts de chou en maternelle, où justement les enfants sont sursaturés, sursollicités, leur psychisme est sursollicité d'image. Il y a quand même, je crois que la réponse, et tu l'as dit, elle est éducative. C'était déjà le philosophe Walter Benjamin qui avait été le pionnier d'une écriture philosophique sur la photographie, mais disait dès les années 1920 qu'il fallait absolument se préparer, que notre monde à venir devait se préparer à enseigner l'image, la photographie au même titre que l'écriture et que c'était aussi important. C'est-à-dire amener les enfants à discerner ces subtilités de l'image et à comprendre que, oui, il y a des images, on peut, quand on discerne, et on accède nécessairement à un esprit critique et à une réflexion. Alors, comment discerner? Certainement avec deux choses. Premièrement, on peut très bien imaginer que dans un événement culturel, c'est un petit peu le sens des cartels qui sont dans l'exposition, dans une situation pédagogique en classe, et bien très bien introduire aussi des commentaires sur l'image, comme on fait des commentaires sur la peinture. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de remplacer ce que dit l'image par du texte, mais il s'agit simplement d'étayer par du texte ce que l'image peut nous faire ressentir. Il y a ça. Donc il y a le commentaire, et ça, c'est pour moi, c'est un petit peu le rôle des médiateurs artistiques dans un musée. C'est aussi le rôle des profs. Alors c'est une première chose, et puis il y a une deuxième chose qui me semble encore plus radicale, c'est de devenir soi-même créateur et d'inviter par exemple les enfants, comme on le faisait avant, je me rappelle des labos photos qui fleurissaient dans les collèges, c'était très bien d'amener les élèves dans un contexte pédagogique à devenir eux-mêmes créateurs, à créer leurs propres images, mais ceci avec différentes techniques.
Les photos sont très chouettes, elles sont en noir et blanc. Où est-ce que je peux les retrouver? Où est-ce que je peux retrouver toute ta production, toutes tes réalisations?
C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse à t'offrir parce que le temps passe. On peut les trouver dans l'exposition. Sinon, j'ai un blog où je vais en mettre certaines dessus. Voilà, je n'ai pas de... Si, et le projet serait, avec les textes des cartels qui accompagnent les photos, et ces photos qui, là, sont centrées sur Lyon, le projet serait de prévoir une petite publication, un petit ouvrage.
Donc, on tape sur Internet Gilles Boudinet, Boudinet, et on trouve des choses.
On trouve des choses, et pour la photo... si on tape gilesboudinet.unblog en un seul mot, là, il y a plein de choses. Et notamment, il doit y avoir un article qui s'appelle « Exposition » dans lequel il y a certaines des photos.
L'expo ici à la mairie du 2e arrondissement à Lyon va durer jusqu'à quand?
Alors, elle dure jusqu'au 27 janvier.
Les horaires?
Et les horaires sont ceux de la mairie. Donc, c'est l'exposition ferme, bien sûr, avec les horaires de fermeture de la mairie. Et je précise que la mairie, mais c'est pas mal aussi pour des raisons de protection, mais la mairie est fermée le samedi après-midi et le dimanche.
D'accord. Merci pour tout ça.
Bien, grand merci. Puis j'en profite aussi pour remercier la mairie du 2e.
Tout à fait.
Exactement. De son accueil et de cette possibilité qu'elle offre aux Lyonnais du 2e d'exposer leurs travaux.
Merci à toi.
Merci.